France Culture.
Question d'islam par Ali Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la loi de séparation, la loi du 9 décembre 1905. Et en cette année de 2025, ce sont les 120 ans de sa promulgation. L'idée, c'est de voir en quoi et comment a-t-elle été appliquée dans les contextes islamiques, alors sous férule française du temps de la colonisation, et pour voir comment la tradition religieuse islamique et ses représentants l'ont-ils accueillie, ont-ils voulu l'appliquer et qu'est-ce qui en a empêché. En filigrane, il y a l'idée de cette fameuse incompatibilité irréductible entre le fait islamique et la laïcité. Et s'il devait avoir non-application, il faut savoir d'où les obstacles sont-ils venus. Et donc en cette année de célébration, j'ai failli dire commémoration, mais les puristes de la langue française distinguent commémorer de célébrer, on célèbre ce qui a pu réjouir. Et nous nous réjouissons tous de la séparation des deux ordres, politique et religieux. C'est une marque de modernité politique et intellectuelle. J'ai été assez long dans cette introduction. Je suis extrêmement heureux d'accueillir Jean-Louis Auduc pour parler de ce sujet. Jean-Louis Auduc, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous. Merci de nous faire l'amitié de venir parler de ce sujet que vous connaissez bien. Vous êtes professeur agrégé d'histoire-géographie, un fin connaisseur du sujet de la laïcité et notamment dans son application au sein de l'éducation nationale. Vous êtes un pédagogue et un formateur, tout particulièrement à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Et vous êtes bien connu pour votre implication dans la formation des enseignants, particulièrement à l'Académie de Créteil. Et dans vos ouvrages nombreux, vous parlez de laïcité. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'est celui qui parle de cette trahison de la laïcité, que de trahison au pluriel. On commet en ton nom, chère laïcité. Et en quoi il y a eu des trahisons, Jean-Louis Auduc, à propos de la laïcité?
Ben, il y a eu des trahisons par le fait que ce principe qui devait régir l'ensemble de l'État français, pour reprendre une formule qu'on attribue à Gambetta, mais qui en fait est de Paul Bert, on a décidé que ce n'était pas un produit d'exportation, et après un long débat en 1905, on a réduit son application au seul territoire métropolitain, en laissant le soin aux gouverneurs locaux de voir s'il y allait avoir application ou non application. C'est une première trahison pour moi, puisque si un régime est bon sur la métropole, pourquoi ne serait-il pas bon sur tous les territoires où flotte le drapeau français? Et je rappelle cette fameuse formulation d'Anatole France dans son ouvrage « L'Église et la République », mais si on l'applique partout, la religion la plus importante sous le drapeau français, c'est l'islam.
Oui, c'est vrai qu'Anatole France était connu pour son islamophilie, mot quasi imprononçable de nos jours. Moi, je me rappelle, et j'ai lu avec à la fois étonnement et intérêt, que dans La vie en fleurs, il faisait dire à un de ses personnages, Monsieur Dubois, quand il interroge Madame Nozière, quel était le jour le plus funeste de l'histoire. Et comme celle-ci ne sait pas, elle ne répond pas, et il lui dit, c'est le jour de la bataille de Poitiers, quand en 732, la science, l'art et la civilisation arabe reculèrent devant la barbarie franque. Bon, mais indépendamment de la citation Jean-Louis Auduc, comment se fait-il encore une fois que, et nous le verrons tout au long de l'entretien ensemble, qu'en dépit des demandes réitérées et successives de la part des intellectuels et surtout des oulémas pour que la loi de séparation fut appliquée, eh bien les refus nombreux et entêtés sont venus plutôt de l'administration.
De l'administration et d'un certain nombre d'élus travaillés. On est à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, parce que j'appellerais le parti colonial. La volonté du parti colonial, c'est d'éviter tout développement du nationalisme indigène, que ça soit à l'intérieur de l'Afrique noire, que ça soit en Afrique du Nord, ou que ce soit en Guyane, à La Réunion. Et donc, la volonté du parti colonial, c'est la religion contrôlée étroitement par l'État avant la nation indigène. Et on voit ça en permanence dans les débats sur la laïcité. Lorsqu'il y a la loi sur les congrégations d'Émile Combes, il fait tout de suite un article pour dire « ça ne s'applique pas aux congrégations, quelle que soit leur religion, qui interviennent en Afrique noire et dans les colonies ». Et c'est cette même démarche, c'est bien la religion pour les populations, à une condition, et j'y reviendrai, c'est qu'elle soit étroitement contrôlée pour éviter le nationalisme indigène. C'est au fond la religion avant la nation. C'est pourquoi, et on le verra, tous les anticolonialistes réfutaient cette démarche en disant « la nation avant la religion ».
Et ça, on le trouve, même si ça dépasse le cadre de l'Algérie et de l'application de la loi 1905 et aussi l'application dans les colonies, que chez les nationalistes ou les dirigeants musulmans des sociétés majoritairement musulmanes, Mustafa Kemal Atatürk, Nasser, le Parti Basse, Bourguiba, Messali Hadj, à la fois pour le Parti Populaire Algérien ou le MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, tous disaient la nation avant la religion, et la nation doit être administrée, gérée selon des normes positives, au sens du droit positif, et non pas par la religion. Alors que le parti colonial, avec des idées colonialistes, il valait mieux laisser les indigènes prier que de s'émanciper politiquement.
Oui, mais vous savez, il y a une formule dont on ne sait pas exactement si c'est Émile Combes ou un autre sénateur qu'il a prononcé au moment du débat de 1905 et qui est plein d'actualité, y compris en 2025 au Moyen-Orient. Cette formule, c'est « mieux vaut qu'il soit musulman, même outrancier, plutôt que nationaliste indigène ». Et on voit bien que cette démarche politique colonisatrice a été extrêmement présente en 1905. On laisse l'islam non séparé, mais on contrôle étroitement cette religion. On va continuer, dès 1907, décret d'application, à payer des indemnités temporaires hauts ministres du culte musulman qui ont été agréés par le gouvernorat sous l'optique d'une probité morale. Et ce qui est intéressant, c'est comme on est totalement dans une zone de non-droit par rapport à la loi de 1905, ce décret de 1907 valable pour 10 ans, on le refait en 1917, on le refait en 1922, on le refait en 1932, on le refait en 1945, c'est-à-dire que ce décret essaie explicitement dans les textes d'application de 1907, décret, l'autorité supérieure en Algérie doit conserver le recrutement du personnel du culte musulman à l'aide d'un véritable droit de nomination. C'est-à-dire qu'on est totalement dans une constitution civile du clergé musulman, pour prendre un exemple historique français, et un contrôle, ce que refuse l'Assemblée des Oulémas dès 1920. Et je cite un des textes de l'Association des Oulémas qui montre que eux luttaient pour l'application de la laïcité. On ne s'explique point les raisons pour lesquelles le gouvernement français étant laïque et la laïcité interdisant l'immission dans les affaires religieuses, l'islam est un culte où l'administration veut intervenir. La loi du 9 décembre 1905 ne reçut aucune application quant au culte musulman. Les musulmans, et la phrase est intéressante, n'ont pas bénéficié, comme d'autres religions en métropole, de la séparation édictée par les lois républicaines. N'ont pas bénéficié, ce qui veut dire qu'ils reconnaissent que la laïcité, c'est aussi la liberté du culte à s'organiser, l'État chez lui, les religions chez elles, pour reprendre effectivement notre cher Victor Hugo, c'est ce que réclament les oulémas qui réclameront en vain pendant toute la période coloniale en Algérie.
Deux choses, cher Jean-Louis Auduc. La première, c'est le fameux décret d'application du 27 septembre 1907 et qui a été, disons, a donné une sorte de dérogation sur 10 ans. Et au bout des 10 ans, quand on a voulu, le 11, c'est du côté, cette fois-ci, des oulémas, disons, des responsables musulmans, on leur a dit, on est en pleine guerre, on verra ça après. Par la suite, on le différait de 22 à 32, et à chaque fois, on trouvait un moyen pour ne pas l'appliquer. Et dans ma petite enquête, j'ai trouvé des parlementaires, à la fois députés et sénateurs, qui étaient des ardents défenseurs de la loi, y compris des députés d'Oran comme César Troin, de Constantine comme Charles Aubry, le sénateur d'Oran aussi, Marcel Saint-Germain. Mais quand il s'agissait de l'appliquer, ben on ne l'appliquait pas pour les départements ou les territoires ultramarins. Ça, c'est véritablement le cœur de la trahison dont vous parlez, Jean-Louis Auduc.
Oui, parce que pour moi, si un principe est bon, il doit s'appliquer sur tout le territoire. Et je dirais que d'une certaine manière, et je pourrais rajouter l'intervention de Braguet de la Villemoisan, le sénateur d'Ille-et-Vilaine, il y a une volonté paternaliste, j'oserais dire quasiment un peu raciste, de juger que ces populations indigènes ne sont pas aptes à bénéficier de la laïcité. Je cite Braguère de Villemoisan, « Les indigènes du Congo, de Madagascar, du Tonkin, d'Afrique du Nord possèdent-ils un niveau intellectuel susceptible de comprendre ce progrès des idées modernes ?» Je ne le pense pas. Je vois au contraire des raisons très fortes qui militent en faveur du maintien de l'état des choses actuelles dans la colonie française. C'est-à-dire qu'on reporte ça au moment où effectivement on jugera qu'ils sont suffisamment initiés. Ce paternalisme qu'on a connu en France par rapport à la paysannerie au XVIIe et XVIIIe siècle, on l'applique totalement dans les colonies par rapport à ce questionnement.
Oui, ce même sénateur, Braguet de la Villemoison, je prononce comme vous, Jean-Louis Auduc, le sénateur d'Ille-et-Vilaine, a ajouté deux choses. Une qui nous intéresse à l'émission, c'est lorsqu'il disait « on évitera tout ce qui pourrait... » gêner, entraver et laisser le culte musulman de côté parce qu'on craint des difficultés terribles qui finalement pourraient produire une véritable révolution contre la France et l'influence française. Et il a ajouté par la suite, j'estime donc qu'il y a véritablement du patriotisme, un patriotisme bien entendu, à maintenir l'influence religieuse aux colonies parce qu'elle est l'influence civilisatrice par excellence, parce qu'elle est réellement un foyer d'action et de propagande française. Tiens, on instrumentalise et on domestique le religieux pour la propagande, le mot est de lui, française, et on fait fi de la notion même du progrès et de la modernité qu'offre la séparation des deux ordres.
Mais, si vous voulez, c'est une logique d'instrumentalisation du religieux au service de la politique suivie. Napoléon Ier l'avait bien théorisé dans ses lois organiques et le catéchisme impérial. Et on a là, effectivement, une volonté de ne pas considérer la liberté religieuse comme faisant partie intrinsèquement de ce qui est les éléments d'une vie personnelle et d'une vie moderne. La religion est utile si on la contrôle, puisque ce qu'on souhaite, c'est le droit de nomination des imams et c'est l'obligation que ça soit ces imams nommés et rémunérés qui prêchent dans les mosquées. On est véritablement dans une volonté. Je reprendrai une formule qu'avait critiqué un certain nombre de libres penseurs par rapport aux articles organiques de Napoléon. C'est la domestication de la religion et c'est ça que veut le parti colonial en pensant que ça éloignera les populations d'une réflexion sur le nationalisme indigène. Et on le verra, ça sera aussi présent dans une politique coloniale pour les populations maghrébines qui vont venir en France entre les deux guerres.
Thank you.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui et à l'occasion des 120 ans de la loi de séparation, la loi de 1905, du 9 décembre 1905, avec Jean-Louis Auduc, nous parlons de la laïcité, du principe de laïcité et de sa non-application dans les colonies, tout particulièrement dans les contextes islamiques, et ceci, je le répète, en dépit des demandes des oulémas musulmans et le refus obstiné de l'administration fait en sorte que c'est une des raisons révoltantes pour notamment les leaders nationalistes contre cet état de fait de la colonisation. Jean-Louis Auduc, l'un des méfaits, ils sont nombreux, de la colonisation, ce n'est pas, certes, et ça a son importance, tous les crimes et tout ce qui a pu se passer, c'est surtout ce mépris et la volonté de ne pas appliquer ce qui est considéré comme un progrès, comme une avancée à la fois éthique, intellectuelle et une modernité, là où, même pour la loi qui doit être la même sur tout le territoire.
Mais c'est le problème global de la colonisation. Est-ce qu'on a appliqué dans les colonies les 18 articles de la Déclaration des droits de l'homme de 1789? Bien évidemment, non, quand on voit ce que ça a conduit au niveau de la répression. Est-ce qu'on a appliqué l'ensemble des lois sociales votées dans les années 1910-1930? Vous voyez bien que, effectivement, la colonisation, c'était la zone de non-droit, c'est-à-dire l'État décide l'application est différenciée dans les colonies, ce qui pose effectivement une vraie question sur, je cite des guillemets, la mission civilisatrice que chacun voulait à la colonisation. À partir de ce moment, là, on voit bien que le projet colonial est totalement antinomique avec le progrès démocratique tel qu'il se définit. Et dans ce cadre-là, l'entreprise coloniale, c'est vraiment la volonté d'inféoder la religion musulmane. Et je disais, une application, puisqu'il commence après la Première Guerre mondiale, à y avoir une immigration maghrébine importante après la participation de nombreux soldats maghrébins à la guerre de 14. Et on a ça dans tous les textes. À partir de 1920, on ne parle plus de population maghrébine, on parle de musulmans d'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'on camoufle derrière leur religion inféodée, la nation auquel légitimement ils appartiennent. Et ça, c'est une situation relativement grave. Symbole de l'inféodation, c'est aussi que les pouvoirs politiques laissent la place dans les colonies au pouvoir militaire. Et on connaîtra ça un peu partout, ce qui fait qu'on cite souvent la première mosquée installée comme la mosquée de Paris, mais en même temps, pour les troupes maghrébines, on construit dans le Midi une mosquée qui d'ailleurs est classée monument historique, mais qui est sous territoire militaire, qui vont effectivement, mais c'est toute l'histoire de la colonisation, notamment en Algérie, prendre le pas sur les administrateurs civils.
Jean-Louis Auduc, dans cette série des contradictions, des incohérences dues à cette domestication du fait islamique pour asseoir et maintenir la férule coloniale, il y a la loi, cette fois-ci, sur les associations diocésaines. Pour les cultes catholiques et protestants, et même pour le culte dit israélite à ce moment-là, les associations religieuses étaient autonomes et indépendantes. En revanche, les associations religieuses islamiques avaient comme secrétaire général le secrétaire général de la préfecture.
Et de ce point de vue-là, on va le voir à l'occasion, puisque inféodé à la religion, ça signifiait effectivement de créer un service spécifique en métropole, où d'ailleurs on a pris pour le diriger ce service de protection et de surveillance des indigènes nord-africains, on a pris un ancien administrateur colonial de l'Algérie. Et pour lui, effectivement, le contrôle était non seulement religieux, mais sur l'ensemble de la vie des Maghrébins en métropole, d'où, au moment de l'exposition coloniale, la création, sous l'égide de ce service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains, d'un hôpital qu'on construit dans l'actuelle Seine-Saint-Denis, entre Bobigny et Saint-Denis, qui est appelé à l'époque hôpital franco-musulman, comme si, effectivement, ce qui caractérisait les Français, c'était la nation, ce qui caractérisait les Maghrébins, c'est la religion. Certes, cet hôpital a été débaptisé en 1978 seulement pour s'appeler Avicenne, mais le sigle hôpital franco-musulman sur l'entrée est toujours présent et vous permettrez aux formateurs d'enseignants de voir, de penser qu'est-ce que ça veut dire pour nos élèves auxquels on explique la laïcité, la séparation, auxquels on explique qu'ils peuvent croire, être musulmans et en même temps être français parce qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les deux, de voir afficher ce sigle d'hôpital avec d'un côté la nation, de l'autre la religion. Et vous parliez de Messali Hadj, il va organiser toute une série de manifestations contre cette dénomination, avec une formule dans un de ses discours, pourquoi derrière notre religion veut-on oublier notre identité nationale ?
Oui, et à ce sujet, parce que j'avais une autre question avant, Messali Hadj s'insurge contre l'appellation franco-musulman. Il dit, si vous voulez nous soigner, il faut nous soigner comme citoyens et comme individus, et pas nécessairement selon notre appartenance confessionnelle. D'ailleurs, Pasteur en lui attribue d'avoir dit « Je ne te demande pas qui tu es, quelle est ta religion, tu souffres, tu m'appartiens et je te soigne ». Et donc l'appellation « hôpital franco-musulman » n'avait pas de sens au moment où on l'avait baptisé « hôpital franco-musulman ».
Ça avait un sens de refuser toute démarche, je dirais, de volonté d'émancipation nationale. Mais là, on parle de l'islam et d'Algérie, c'est la même situation, parce qu'il y a des mouvements de volonté indépendantiste à La Réunion, où on n'applique pas la loi de 1905 dans ce territoire, où on l'applique curieusement. Les fonctionnaires de l'État sont laïcs, mais pas les communes, qui reconnaissent et peuvent financer les religions musulmanes, hindouistes, juives, catholiques et protestants. on ne l'applique pas non plus en Guyane, où on laisse l'ordonnance de Charles X, c'est-à-dire l'ordonnance de la Restauration sur la primauté du culte catholique, être là. On ne l'applique pas dans les territoires polynésiens. Là aussi, le colonisateur veut inféoder la religion, les religions, quelles qu'elles soient, pour éviter toute velléité d'indépendance. Et en 2025, ces situations de trahison de la loi de 1905, que je sais, existent toujours.
Oui, peut-être encore deux choses, Jean-Louis Auduc. La première, et c'est dans ce lot de ce que j'ai appelé, peut-être sous forme de litote ou d'une manière euphémistique, les incohérences, les contradictions du parti conservateur ou peut-être même le parti colonial.
Il est présent sur tous les bancs. Il y a des exceptions. Clémenceau, Jaurès sont des grandes exceptions. Mais faut voir que sous des formes diverses, le parti colonial est présent dans toutes les formations, de la gauche modérée à la droite.
Vous avez raison de me reprendre. C'est vrai que c'est transpartisan et on s'accommode du fait qu'on rémunère les ministres du culte musulmans, les muftis, les imams, les cadis, sorte de juges religieux. Et par la suite, on s'étonne, et on verra qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci du côté islamique, parce que autant on voulait s'émanciper par la séparation et appliquer ce principe de modernité politique et intellectuelle, encore une fois, qu'est une conquête de l'esprit humain, qu'est la laïcité. Pourquoi, de nos jours, il y a des demandes affirmées de la part, notamment d'une certaine jeunesse musulmane, peut-être l'offensive dite islamiste derrière. Mais pourquoi, à l'époque, uniquement et exclusivement, les ministres du culte musulman, eux, étaient rémunérés par l'administration?
Parce qu'on voulait qu'ils soient inféodés, qu'ils soient domestiqués, et parce que on avait bien vu que toute l'histoire du Maghreb et notamment de l'Algérie, c'est une histoire de révolte nationale par rapport effectivement à une culture historiquement importante, à des références. Je rappelle que c'est pas si lointain, mais les décisions prises par la Troisième République lorsqu'elle naît en Algérie reviennent sur toute une série de points libéraux qui étaient dus au ministre de Napoléon III, Ismaël Urbain, dont on ignore souvent en France le rôle important qu'il a eu pour réfléchir sur, effectivement, comment permettre une négociation entre l'histoire nationale de l'Afrique du Nord et la France. Et les textes de la Troisième République sont directement liés à une volonté colonisatrice et de domestication de la population. Et les révoltes vont durer, notamment chez les Berbères, vont durer de 1870 à 1878, et encore il y a des zones de ce que je pourrais appeler des maquis qui persistent jusque dans les années 1880. Donc on a en Algérie une angoisse qu'il y ait un mouvement d'émancipation nationale. Et donc, on juge que la religion peut être l'instrument de domestication de la population à partir du moment où ce qu'on aura recruté pour prêcher dans les mosquées seront légitimés par le gouverneur général, par l'armée, et auront un discours visant à ne pas remettre en cause le pouvoir colonial. C'est très clairement une volonté de faire que la religion puisse servir les intérêts coloniaux en étant un étouffoir des revendications nationales. On est là dans une stratégie voulue par le parti colonial et auquel la laïcité s'oppose, puisque la laïcité, c'est la liberté de l'État, la liberté de la personne et la liberté des religions, les religions étant effectivement une explication du monde. Je rappelle la fameuse formule qui n'a pas été appliquée en Algérie, mais la fameuse formule de Briand lorsqu'il démarre la discussion de la loi doit protéger la foi à condition que la foi ne veuille pas faire la loi. En Algérie, la loi domestiquait la foi à des fins de maintenir le système colonial.
Et vous avez raison d'évoquer cette phrase qu'on attribue, en tout cas celle d'Aristide Briand, et à laquelle votre serviteur s'est permis d'ajouter quelque chose qui est « c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi ». Et j'ai ajouté « et la loi prime toujours la foi ». À l'évocation, Jean-Louis Auduc, du gouverneur général, il me revient en mémoire cette lettre qui lui était adressée, mais vous allez me dire de qui. C'était le 13 juillet 1909,
on est à
2 mois et quelques du décret d'application du 27 septembre 1909, et on lui dit « vous êtes en droit d'exiger de ces associations, c'est-à-dire les associations religieuses musulmanes, que les choix des ministres du culte attachés à ces groupements et en mesure de recevoir les indemnités de fonction soient soumis à votre agrément. L'action directe que l'autorité supérieure doit conserver sur le recrutement du personnel du culte musulman pourra s'exercer ainsi d'une manière aussi efficace qu'à l'aide d'un véritable droit de nomination. » Fin de citation. Ce qui est curieux, c'est que c'est à l'administration coloniale, ou d'une manière générale, qui doit nommer le ministre du culte en violation flagrante de la loi.
Ah non, mais on est là dans une trahison totale de la loi. C'est effectivement le pouvoir politique qui prend la décision, je dirais, de nier l'application de la loi de 1905 dans les colonies, de la nier triplement. Un, l'agrément donné. On est là dans un système effectivement monarchique où on détermine quelle est la bonne religion.
Quel est le meilleur représentant de la dite religion.
Ou la bonne religion. Je rappelle que à des moments, y compris par rapport au culte catholique dans l'histoire de France, il y avait des interprétations et qu'effectivement, on réprimait, je pense aux jansénistes, à la fin du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Et donc, c'est l'agrément des associations, c'est le recrutement, effectivement, des personnels, avec le droit de nomination. C'est-à-dire qu'on a une volonté très poussée de fonctionnariat au service du pouvoir colonial des ministres du culte. C'est l'antithèse totale de la loi de 1905 sur la séparation des deux. Mais c'est cette logique où il vaut mieux qu'ils soient musulmans, ça leur évitera de penser au nationalisme et ceux qu'on va recruter vont leur dire de bien être obéissants à la religion, de bien être, mais vous connaissez l'expression qui naît à l'époque, de bien être des bénis oui-oui par rapport au système colonial. Et ce texte de juillet 1909 est très significatif de trahir totalement l'esprit, la lettre de la loi de la laïcité. C'est pourquoi, quand je fais des formations, je suis toujours gêné quand un interlocuteur me dit « Mais votre laïcité, en citant des lois actuelles, c'est un combat colonial. » Mais il faut rappeler que les anticolonialistes, et je pense sur l'Algérie à Frantz Fanon, qui a écrit des textes importants sur cette domestication de la religion, que les anticolonialistes en Algérie, Messali, Frantz Fanon, et on l'a cité tout à l'heure, les oulimas, se sont battus pour que la religion soit libre et indépendante, alors même qu'elle était inféodée au pouvoir colonial, on l'évoquait sur l'hôpital. Mais cette situation, qui a duré jusqu'à l'indépendance de 62, elle marque la mémoire, effectivement, de ce qui s'est passé. Et ce qui est fou, c'est qu'à aucun moment, dans le débat sur la loi de 1905, qui a évoqué l'islam, et je crois qu'on l'évoque suffisamment ici, donc c'est des mensonges purs et simples quand on dit l'islam a été totalement indépendant, n'existait pas dans la discussion de la loi de 1905, notamment parce que le parti colonial voulait l'inféoder. Il n'y a aucune intervention qui évoque l'incompatibilité de l'islam avec la laïcité. Mais peut-être dans 2 siècles, dans 3 siècles, quand les populations seront éduquées, on pourra le faire. Pour le moment, la colonisation est la plus importante. Par contre, des gens comme Allard et d'autres évoquent l'incompatibilité de la laïcité avec l'existence de l'Église catholique en expliquant que l'Église catholique a voulu inféoder les populations à un certain discours. Mais les mêmes, lorsqu'ils passent la Méditerranée, oublient ce qu'ils disent par rapport à la France. Et là, il y a effectivement une vraie trahison de ce que je dirais est l'universalité des véritables droits de l'homme, notamment ce fameux article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Dans l'Algérie coloniale, il fallait que les opinions religieuses soient agréées et validées par le gouvernement général pour qu'elles puissent effectivement exister. C'est l'inverse et de la Déclaration des droits de l'homme et de la loi de 1905.
À ce sujet, lors de la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle cette fois-ci de 1948, il y avait une délégation de nationalistes algériens présents au palais de Chaillot et on avait interpellé un député SFIO en lui disant « Ah ben c'est très bien ce que vous dites, on va l'appliquer cette fois-ci à tous les indigènes ». Il a dit « Ah non, ce n'est pas encore le moment ». Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons à l'occasion des 120 ans de la promulgation de la loi de séparation, la loi du 9 décembre 1905, avec Jean-Louis Auduc. Jean-Louis Auduc, qui est bien connu dans le cercle de la formation des enseignants et particulièrement dans l'Académie de Créteil. Nous parlons de ce qui est une trahison de la laïcité, du principe de laïcité. Jean-Louis Auduc, bon, les trahisons ne sont pas toujours aussi du même côté, puisque avec la demande réitérée, voulue des oulémas, qu'il l'avait fait d'une manière constante pour que la loi fût appliquée, les slogans, les mots d'ordre, les raisons d'être des partis nationalistes avant et après le recouvrement des indépendances, nous avons cité Messali Hadj, nous avons parlé de Bourguiba, de Nasser, du Parti Basse, un peu plus loin de Mustafa Kemal Atatürk. Comment, selon vous, par exemple, la plateforme du congrès de la Soumam, la Soumam étant cette rivière où en 1956, le 20 août, il y a eu ce congrès des dirigeants de la révolution algérienne, comme on disait, pour que le futur État algérien indépendant soit un État démocratique, laïque, multiconfessionnel, etc. Et on voit que ce n'est pas le cas. Est-ce dû à une crispation, une compréhension de la religion qui est du coup éculée, ou c'est une autre forme de domestication et d'instrumentalisation?
Vous savez, la laïcité a mis longtemps en France pour se mettre en œuvre, et la volonté, je l'évoquais, de domestication en France métropolitaine de la religion catholique a été très présente, de la monarchie, de Napoléon et d'autres. Et je pense, par rapport à ça, que par rapport à une religion inféodée au pouvoir colonial, ben, on est directement passé d'une religion inféodée à la Révolution. De ce point de vue-là, la culture de la séparation de l'État et la séparation de la religion n'existait pas. Vous citiez un certain nombre d'exemples où la religion était un élément, mais pas totalement, de la nation. En Turquie, Mustafa Kemal, qui d'ailleurs était né dans une ville qui allait revenir à la Grèce quelques années plus tard, Thessalonique, vous aviez différentes formes d'islam, d'ailleurs sunnites, alévis, vous aviez la religion orthodoxe, vous aviez la religion catholique, donc pluralisme. Même chose en Égypte, entre les Coptes, là. Donc, le sentiment national pouvait effectivement dépasser et avait la volonté de dépasser les querelles religieuses. On l'a bien vu dans la naissance du Baas en Irak, terre de chiites, sunnites, voire quelques chrétiens, même chose en Syrie. Donc, l'État voulait dépasser les querelles religieuses dont s'était servi le colonisateur. En Algérie, la situation était différente puisque l'État avait voulu inféoder la religion et donc, par effet miroir, on est dans cette situation. Je pense donc qu'il y a une responsabilité sur lequel nous avons à réfléchir par rapport au rôle qu'a joué le parti colonial par rapport aux populations des colonies françaises et séparation de l'Église et de l'État. Oui, mais regardez dans les colonies lorsqu'il y a un problème, je pense à la Nouvelle-Calédonie, on va trouver les membres des clergés, la catholique et protestant, pour leur demander de servir l'État tel qu'il est. C'est vrai que la loi de 1905 ne s'applique pas dans ces territoires. Donc il y a un vrai problème culturel. Je pense qu'il faut déconstruire le rôle qu'on a voulu faire jouer aux religions dans leur diversité, au catholicisme, au protestantisme en Afrique noire, à l'islam dans le Maghreb, à toute une série d'autres religions dans les différentes îles que possède l'État. Il y a un enjeu de déconstruire et de faire que notre jeunesse comprenne bien que la laïcité, c'est la liberté de l'État de gouverner, la liberté de la personne de penser ce qu'elle veut. Croire et ne pas croire, c'est aussi légitime. Je peux croire et être un laïc, je peux ne pas croire et être un laïc, et la liberté de la religion de s'organiser. Il y a un autre point qui est important. La loi de 1905, quand elle garantit la liberté de culte, garantit le fait qu'il y ait des aumôneries de toutes les religions dans l'armée, dans les prisons, dans les hôpitaux.
Et dans les établissements scolaires aussi.
Dans les lycées avec internat, par rapport à ça. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas rémunérés, les aumôniers des lycées avec l'État, alors qu'ils sont défrayés ou rémunérés. Les hôpitaux, la religion étant inféodée, on n'applique même pas l'article 2 de la loi de 1905 sur la liberté des cultes, chacun pouvant choisir son culte.
Merci infiniment. Vous savez, cher Jean-Louis Auluc, j'avais encore d'autres questions à vous poser, mais nous arrivons vraiment au terme de l'émission. Je vous remercie infiniment pour votre éclairage. Je comprends que si les choses étaient mieux, si on était cohérent avec ces idées de progrès, nous aurions eu moins peut-être d'ennuis de nos jours, mais nous ne désespérons pas de pouvoir les surmonter. Merci encore une fois. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam et nous avons parlé aujourd'hui de la loi de séparation et de ses 120 ans et de toute son histoire, notamment au moment de son application dans les colonies. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Nadège Antonini et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.